se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Voilà, le week-end des experts qui se poursuit sur RMC, 6h-10h, le samedi et le dimanche. Et comme je vous le disais, en cette nouvelle année 2021, il y a deux informations à retenir. C'est que Donald Trump s'en va, d'accord. Jean-Pierre Pernaut est parti. Et nous, tout comme Trump et Pernaut, on va partir aussi. Voilà, c'est comme ça. À partir de la semaine prochaine, sur RMC, entre 6h et 10h, on vous en a déjà longuement parlé. Hein, mais là, ça y est, hein, l'échéance arrive. La semaine prochaine, vous retrouverez entre 6h et 10h, le samedi et le dimanche, une matinale commune entre RMC et BFM TV. On souhaite d'ailleurs tous nos vœux de bonheur et plein de bonnes choses à cette nouvelle équipe, donc qui va avoir un sacré challenge, hein. Radio-télé, 6h-10h. Salut Raphaël.
Salut François, tu sais qu'on n'a pas fait loin. Enfin, personnellement, j'ai presque fait comme Donald Trump, j'ai fait 3 ans et demi. C'est pas mal, j'étais pas loin de faire les 4 ans.
C'est vrai. Bon, t'as écrit beaucoup moins de conneries sur Twitter quand même.
Franchement, je sais pas. Faudra que je fasse une rétrospective. Et je fais un peu moins la tête que Donald Trump aussi. Oui, faudra peut-être pas me sortir Manu Militari.
Exactement, voilà. Exactement. Et oui, Raphaël, c'est la dernière de ce week-end des experts. Depuis, c'est ça, 3 ans et demi.
3 ans et demi.
Tous les samedis.
Je crois que ça devait être le 28 août 2017.
Exactement. Et je tiens à remercier la direction d'RMC qui nous avait fait confiance à l'époque, hein, en consacrant une heure aux nouvelles technologies sur RMC, à une heure de grande écoute un samedi matin. C'était du jamais vu.
Ah oui, quel pied d'avoir pu parler ça pendant une heure sur le numérique. C'est quand même un sujet qu'on voit quand même pas beaucoup ailleurs.
C'est vrai.
Et surtout, moi, il y a quelque chose, je voudrais vraiment le dire très sincèrement, ça m'a un peu mis les pieds sur terre aussi, parce qu'en tant que journaliste tech, on est habitué, et tu connais bien ça, à voir les nouveautés, les dernières technologies.
Oui, on est dans notre bulle.
Est dans notre bulle. Et en fait, ça a été tellement agréable pour moi de pouvoir aussi parler avec des auditeurs qui finalement étaient un peu comme ma grand-mère, qui connaissaient pas forcément grand-chose. Et j'espère vraiment pouvoir les avoir un peu rapprochés du numérique.
Bien sûr.
Et surtout, voilà, avoir un peu désacralisé le numérique. Et je trouve qu'on a une évolution sur 3 ans et demi où maintenant, on va dire nos auditeurs, osent poser des questions.
Ouais,
et j'ai envie de dire, le numérique n'est pas compliqué, n'a rien de sacré. Il n'y a pas besoin d'être jeune pour le numérique. Il n'y a pas besoin d'être sachant. Tout le monde peut s'y intéresser. Donc voilà, je voudrais te remercier aussi, François, quand même, parce que c'est un vrai pied de faire ça avec toi. Et puis en plus, on va continuer à faire beaucoup de choses ensemble.
Voilà, c'est ça. C'est que bon, donc il y a l'aventure RMC qui se termine. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'aventure, moi, dans le groupe se poursuit, mais sur un autre média. Vous savez que Altice Média et Next Radio TV, c'est plusieurs médias, c'est RMC bien sûr, c'est BFM TV, c'est aussi BFM Business, et donc à partir de lundi, j'arrive sur BFM Business et je vous retrouverai tous les soirs pour une quotidienne dédiée à la tech, puisque tout comme toi, c'est ma passion, Raphaël, les nouvelles technologies. Et on se retrouvera donc du lundi au jeudi de 20h à 22h pour Tech & Co, à la radio donc sur BFM Business, qui est une radio qui émet en FM, mais aussi à la télé sur le canal de BFM Business que vous avez sur vos box. Donc c'est un nouveau challenge pour moi et je suis très heureux de vous retrouver à partir de lundi sur BFM Business. Et la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est que Raphaël va rester avec moi. C'est-à-dire que Raphaël sera très souvent dans Tech & Co, mais autre émission qui va rester et que, on va dire, les plus anciens qui me suivent dans la tech connaissent, et De Quoi Je Me Mail se poursuit, s'arrête sur RMC et va devenir un rendez-vous sur BFM Business aussi, en fait. C'est comme si je prenais mes valises, je l'ai quitté d'RMC pour aller sur BFM Business.
Et ça reste évidemment le podcast qui cartonne quand même depuis X années. Hein.
Voilà,
je ne veux pas te dire, François, mais enfin, c'est quand même un podcast.
Ça fait 20 ans.
Et du coup, évidemment, j'en profiterai pour venir un peu plus souvent sur De Quoi Je Me Mail.
Bah écoute, oui.
Sachant que du coup, j'en profite aussi, puisque moi, je vais me rapprocher des équipes de 01net. Voilà, puisque je vais aussi m'occuper de l'actualité de 01net. Or, toi aussi, tu t'occupes de 01tv. Donc, Les auditeurs, nos amis auditeurs auront bien compris qu'ils vont pas, qu'ils n'ont pas terminé de nous entendre parler de tech.
Alors, le plus simple aussi, bah, voilà, vous allez sur BFM Business 01, vous retrouverez Raphaël et votre serviteur. Et puis, vous avez nos comptes Twitter, hein, ça aussi, pour nous suivre. Parce que dès qu'on annoncera de nouvelles choses, vous pourrez nous suivre sur Instagram, sur Twitter, etc. Tu es sur Twitter, bien évidemment, hein, Raphaël. C'est quoi ton pseudo déjà?
Alors, c'est @Grably, G-R-A-B-L-Y-R. Voilà. Voilà, comme Raphaël.
Voilà, Grably R. Et moi, c'est F Sorel. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, mais on est aussi sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais à partir de la semaine prochaine, jetez un œil sur BFM Business, à la radio, à la télé, et sur 01net et 01tv pour continuer à nous suivre, Raphaël et moi. Voilà, c'était, on a pris un peu de temps, mais c'est une dernière, hein, donc c'est quand même important. Et on remercie aussi tous les auditeurs qui depuis toutes ces années, nous ont suivis, m'ont suivi. On reçoit beaucoup de messages, hein, d'auditeurs qui sont surpris, tristes, effectivement. Bah, écoutez, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Vous savez qu'une radio, c'est comme une entreprise traditionnelle. Parfois, il y a des changements qui sont pris. Alors qu'on valide ou pas, hein, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais sachez en tout cas que, voilà, moi j'ai été très heureux de vous accompagner durant toutes ces années. Et demain, 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau. Là, ça sera un feu d'artifice. On vous réserve quelques surprises.
Et je me permets,
avec
pour avoir un petit remerciement pour deux personnes, Aurélie Frex et Gilles Val, qui sont quand même les deux producteurs qui nous ont accompagnés, évidemment.
Exactement.
Quand même. Enfin, qui m'ont personnellement accompagné aussi sur ces 3 années et demie. Donc, vous voulez aussi les remercier.
Bon, voilà, ça a été le plus long sommaire jamais fait à la radio. Bah,
écoutez, ouais, c'est normal, c'est un peu exceptionnel.
Comme c'est la dernière, au moins. C'est là où on peut se permettre, hein. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Si on vire d'RMC, c'est pas très grave. À partir d'aujourd'hui. Puisque, de toute façon, voilà, je suis sur une autre radio, donc c'est pas un problème. Non, je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer durant cette heure dédiée à la tech? Raphaël, tout à l'heure, on parlera des meilleures innovations de ces 5 dernières années. On en profite pour jeter un œil dans le rétroviseur et puis aussi se projeter sur 2021.
Exactement, vu bon, ça fait presque 4 ans qu'on fait l'émission. On s'est dit, on va regarder un peu dans le rétroviseur, voir les innovations, ce qui nous a marqué à tous les deux ces 5 dernières années. Ce sera évidemment, on parlera de beaucoup de choses, de smartphones, de fintech, de télé, de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis forcément, on se demandera, oui, à quoi va ressembler l'année 21, l'année tech 2021.
Exactement.
Parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations et beaucoup de choses qui arrivent.
Exactement. On va retrouver vos questions aussi dans un instant. On aura avec nous Jérôme au 32-16. D'ailleurs, Jérôme est tout de suite avec nous. Allez, on y va, on accueille Jérôme. C'est parti. Bonjour Jérôme.
Salut François, salut Raphaël.
Bonjour Jérôme.
Bienvenue Jérôme.
Merci, et je vous confirme, hein, Raphaël, en vous écoutant, je suis devenu presque un pro du numérique. Hein. J'étais comme un peu votre grand-mère, j'ai compris pas grand-chose.
Maintenant, écoute, vous savez vous servir de votre Minitel, Jérôme. C'est ça la bonne nouvelle.
Oui, j'ai compris que X3615, ça existait maintenant, c'est ça.
Ben voilà, c'est parfait, vous y êtes presque. Non, mais franchement,
quelle fierté pour nous.
Non, mais ça me fait très plaisir, parce que c'est exactement pour ça que j'ai voulu qu'on fasse cette émission.
Voilà. Mais voilà, et bien sûr. Vous savez que le numérique aujourd'hui fait partie de notre vie, hein. Il est dans partout, tout au long de notre journée, avec le smartphone, avec les télés, avec les écrans, dans la voiture, partout, dans la santé. Voilà, donc il nous paraissait normal de créer ce rendez-vous. Jérôme, qu'est-ce qui vous arrive? On vous écoute.
Ah oui, François. Alors, en fait, je possède un Samsung J5 qui est de 2016, qui dispose de 16 gigas de mémoire. Et jusque maintenant, cette capacité était suffisante pour moi. Mais bon, 16 gigas, je trouve que désormais, c'est un peu juste.
C'est un miracle. C'est un miracle que ça ait été suffisant, 16 gigas. C'est vraiment
c'est
pas beaucoup.
Et donc, maintenant, je voudrais le changer. Hein. Je pense que 16, c'est pas suffisant. Et je voudrais savoir, justement, s'il existe encore des smartphones avec la touche physique Home qui est située au milieu en bas et que je trouvais assez pratique.
Le fameux bouton principal qui a disparu de quasiment tous les téléphones, parce que maintenant, alors, c'est-à-dire que maintenant, les fabricants proposent des smartphones avec sans bordure d'écran visible, c'est-à-dire avec l'écran qui occupe toute la façade. Et donc, on n'a plus de bouton principal. Alors, sur Android, sincèrement, des smartphones avec un bouton physique, bouton home, bouton principal pour revenir au menu d'accueil, dans les modèles de 2020 et 2021, ça n'existe quasiment plus. C'est pas pour ça que vous pouvez pas en trouver. Vous pouvez très bien vous tourner vers le marché du reconditionné. Le seul problème, c'est-à-dire que j'aurais pu vous conseiller, par exemple, un Samsung Galaxy S7, qui est le dernier Samsung dernier Samsung haut de gamme avec ce bouton. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir des petits soucis logiciels de mise à jour, parce que sur Android, l'univers d'Android, les mises à jour, on va dire qu'au bout de 3 ans, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. D'accord. Donc, à titre personnel, sachez qu'il y a un fabricant qui continue d'avoir en gamme ce téléphone parce que c'est Apple, qui forcément touche tout le monde et qui, on va dire, a probablement le marché le plus large et a beaucoup de clients comme vous qui veulent un bouton principal. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont sorti en début d'année l'iPhone SE. Qui a ce fameux bouton qui ressemble à l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8 en fait, qui est à moins de 500 €, qui a plus de stockage, qui est extrêmement puissant, ça c'est l'avantage, c'est-à-dire que c'est un smartphone, le rapport durabilité-prix, je pense qu'il est absolument incroyable, je pense que vous le garderez 4 ans. Après, j'aurais aimé vous recommander quelque chose sur Android aussi pour pas uniquement vous diriger vers Apple, surtout que je sais, vous avez peut-être pas envie d'aller chez Apple parce que c'est un autre écosystème.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme?
Ben, j'en pense surtout que mon budget ne permettait pas d'aller directement sur l'iPhone SE. Mon J5, j'avais acheté ça à peu près à 150 €. Donc, ah oui. Pour moi, actuellement, je peux pas dépasser les 200-250.
Ah, alors,
ça donc, change tout.
Oui, voilà, alors non, ça. Dans ce cas-là, clairement. Donc, soit l'option Apple peut vous correspondre et vous cherchez un iPhone, peut-être un iPhone 7 ou 8 reconditionné. Sinon, tentez de l'Android. Mais j'ai envie de dire, Jérôme, vous m'avez dit très gentiment que je vous ai fait progresser en numérique. Oui. Continuez peut-être à essayer d'innover. Et pourquoi est-ce que vous faites... Non, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous avez un blocage sur ce bouton physique? Parce que franchement, moi-même, quand j'ai vu arriver ces téléphones, je me suis dit, bon, ça va faire bizarre. Et en fait, on s'y habitue très, très vite.
Ah oui, je vous fais confiance, hein, mais je pense sincèrement que oui, avec l'habitude, on peut s'y habituer sans problème. Oui, c'est ça.
Moi, sincèrement, dans ce cas-là, Jérôme, j'ai envie de dire, plutôt que de vous recommander un mauvais téléphone qui vous correspondra uniquement sur ce point, peut-être tester un mobile. Dans ce cas-là, aller chez Xiaomi. Vous savez, on en a beaucoup parlé, notamment pour leur super smartphone d'entrée de gamme. Hein. Là, vous allez trouver chez Xiaomi des super mobiles dans la gamme Redmi à moins de 200 €, qui feront tout à fait le boulot. Et alors non, vous n'aurez pas de bouton physique, mais comme vous êtes sur la bonne pente, j'ai envie de dire, vous voulez progresser, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, faites peut-être le deuil de ce bouton principal, parce qu'en fait, ça va tellement vous ouvrir de perspectives, vous allez être trop limité si vous voulez absolument avoir un téléphone avec un bouton physique, parce que malheureusement, dans les téléphones performants, ça n'existe plus sur le marché.
Et surtout avec ce budget qui est quand même assez limité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 250 €? Si on fait abstraction du bouton, allez, voilà, Jérôme, on le pousse. Ce bouton, vous l'oubliez. Il y a pas mal de trucs chez Xiaomi, non? On en parlait avec Nicolas Lelouch il y a pas longtemps.
Clairement.
Qui nous conseillait un super rapport qualité-prix.
Ah oui. Vous allez chez Xiaomi, vous prenez par exemple le Redmi Note 9, le Redmi Note 8 Pro. Qui est un tout petit peu plus cher. En fait, chez Xiaomi, vous avez des bons mobiles. Alors, si vous pouvez aller aux 200 € plutôt qu'aux 150, ça changera, à mon avis. Vous gagnerez un an de durée de vie du téléphone. À mon avis. Ouais.
D'accord.
Entre 200 et 150, c'est quand même intéressant. Sachant quand même qu'il me semble que c'est le 20 janvier, on a les soldes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu pour justement toucher ces fameux téléphones qu'on va trouver vers les 210-220 €, hein, peut-être 180. Honnêtement, allez voir chez Xiaomi, regardez les mobiles de chez Xiaomi, le Redmi Note 8T par exemple, qui est très bien, qui a moins de 200 €, vous allez trouver votre bonheur. Hein. Je vais même pas vous conseiller d'autres marques parce que franchement, comme on en a parlé il y a pas très longtemps, eux ils vendent quasiment pas à perte, mais ils font très peu de marge parce qu'ils essaient de séduire du monde. Donc vous trouverez pas un meilleur rapport qualité-prix en ce moment.
D'accord. Et Raphaël, sans rapport avec ma première question, justement, j'ai trouvé sur le site de la marque Humidigi. Alors, c'est un smartphone qui, pour moi, est totalement inconnu. Hein, la marque est totalement inconnue et qui, pour 150 € me semble intéressant, robuste.
Excusez-moi, c'est quelle marque?
Alors, Humidigi.
Alors là,
je vous déconseille.
C'est ça.
Voilà. Non, franchement, je vous conseille pas. N'allez pas dans des marques. J'allais dire pas des marques chinoises parce que ces excellentes marques sont chinoises. Mais le problème, c'est que si vous voulez en Chine, il y a les grandes marques qui font un super boulot. Et puis vous avez une espèce de galaxie de mini-marques qui se lancent comme ça, qui tentent de faire des productions, de faire des coûts en vendant des téléphones, mais qui ne jouent pas sur la marque, en fait, qui font, c'est quasiment des, pas loin des marques blanches, vous voyez. Et, vous n'aurez pas de SAV. Non, laissez, moi, je vous conseille de laisser tomber. Surtout que vous avez déjà un excellent rapport qualité-prix chez Xiaomi, donc franchement, ce sera, à mon avis, ce sera moins bien et presque, et probablement et plus voilà. cher. Donc c'est, clairement, d'accord. pour moi, c'est pas intéressant.
Bon, bah, je suis vos conseils, Raphaël. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Jérôme.
Merci, Jérôme.
Toute l'équipe RMC, à vous, François, à vous, Raphaël. Une bonne année, de bons sondages ultérieurs. Et puis, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Bah,
merci.
Écoute, oui.
Et bah, merci à vous, surtout.
On souhaite de bons sondages à BFM TV, surtout.
Eh oui.
Enfin, cela dit,
RMC voilà, aussi.
RMC, non, mais BFM TV pour la matinale, en
c'est
fait.
C'est sûr.
Puisque c'est, voilà. C'est
évidemment.
Puisque rappelons qu'à partir de la semaine prochaine, matinale de BFM TV sur RMC. Et puis, on se souhaite aussi de bons sondages sur BFM Business, hein, Raphaël, ça peut servir, hein.
C'est sûr.
On va tout de suite enchaîner avec le tuto de Monsieur Raphaël.
RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Le tuto de Raph.
Et comme nous sommes en 2021, que c'est le début de l'année et qu'à chaque fois on a ces bonnes résolutions, nous on va essayer de marier bonnes résolutions et nouvelles technologies avec Raphaël et se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme produit high-tech qui pourrait nous apporter vraiment un vrai service en termes de santé.
C'est-à-dire qu'en fait c'est pas une bonne résolution, mon conseil c'est comment aider à tenir une bonne résolution.
C'est ça
qui est important, parce que comme toutes les bonnes résolutions, arrêter de fumer, faire du sport, c'est très difficile de se motiver.
Oui.
Et on va parler de faire du sport justement parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été mieux armé que pour se motiver à faire du sport, grâce à la tech et grâce aux objets connectés, notamment aux montres connectées. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. On en a parlé notamment avec Weezings en fin d'année dernière. On en a parlé évidemment avec Fitbit. Ça a été vraiment un sujet assez récurrent, mais qui est très important parce que aujourd'hui. À mes yeux, la montre connectée, le bracelet connecté de sport est ce qu'il y a de mieux pour se motiver à sortir. Alors avec éventuellement un équipement un peu costaud pour le froid, hein, ça peut servir aussi. Mais pour se motiver à sortir, à aller courir, à aller faire du vélo, à aller même marcher, on sait à quel point c'est important. Et en fait, c'est tout ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire suivi de nos données et suivi du nombre de pas, suivi des calories, suivi de la fréquence cardiaque, suivi de l'oxymètre, maintenant de l'oxygène dans le sang. Maintenant, on a même des montres avec de l'oxygène dans le sang. Alors, je voudrais vraiment dire à nos auditeurs, si vous avez envie de vous remettre au sport et de vous faire plaisir, offrez-vous vraiment un bracelet connecté. Je ne vais pas recommander un modèle en particulier, si ce n'est me réjouir qu'aujourd'hui, ça coûte pas cher. On parlait des marques chinoises, notamment que Xiaomi fait des très bons bracelets connectés pour quelques dizaines d'euros. Il y a d'autres marques chinoises, il y a Huawei aussi qui fait des bracelets connectés, il y a Oppo, il me semble, qui en a sorti un. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, le budget minimum, c'est 150 euros. Et 150 euros, là, vous avez...
On commence vraiment à avoir des fonctionnalités très fines,
oui,
on va dire.
Oui, parce qu'il y a deux fonctions essentielles pour moi, si vous voulez non seulement commencer, mais progresser. C'est le GPS, parce que quand vous sortez, c'est le GPS qui va vous dire, vous suivre, voir un peu les endroits par lesquels vous passez, suivre la distance que vous parcourez. Et puis le cardio, le capteur cardiaque, parce que là aussi, c'est très important. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi, j'utilise une montre connectée et des bracelets connectés depuis maintenant des années. Et sincèrement, je pense qu'ils m'ont fait progresser. J'essaie de courir, par exemple. Je vois par exemple mon rythme
cardiaque. Mon expérience personnelle, c'est ça. C'est-à-dire que tu t'es remis à la course et avec ces outils-là.
C'est le fait d'avoir une montre connectée qui m'a fait me remettre à la course.
Et voilà.
Je dis pas que ce sera le cas de tout le monde. Moi, je suis aussi un peu geek, donc forcément, j'ai eu envie. Mais
tu as réussi à trouver ta motivation là-dedans.
Oui, et oui, parce que c'est très bien fait. Les interfaces aujourd'hui, il y a des interfaces comme celle de Fitbit. Bon, il y a celle d'Apple, mais Fitbit est très, très, très bien fait, très, très clair. Voilà, il y a beaucoup d'interfaces. Il y a la marque Garmin, qui est plus pointue, mais alors qui est incroyable. Garmin, c'est des montres connectées, justement. La montre connectée de course Garmin la moins chère et que j'ai essayé et qui est absolument remarquable, c'est la Forerunner 45, si je me trompe pas. elle est à 150 euros avec des soldes, on va la toucher un peu plus de 100 euros.
Ouais.
Et ça, c'est des outils. On a en fait des quantités de données qui vont nous dire, par exemple, tiens, c'est marrant, je courais la semaine dernière, ou allez, il y a 3 mois, je courais 30 minutes et à la fin, mon rythme cardiaque était à 175 et puis maintenant, je suis à 165. Bah là, ça va vous dire, vous avez progressé.
Voilà, votre cœur s'est musclé, vous récupérez plus vite, etc.
Et là, en fait,
cette satisfaction.
Votre bonne santé qui s'affiche.
Bien sûr.
Et ça, je trouve que c'est assez révolutionnaire. Alors, il y a d'autres fonctions, il y a le suivi du sommeil, il y a plein de choses. Mais vraiment, pouvoir voir les progrès et l'impact de son activité physique très concrète sur le sport. Alors oui, les conseils des médecins, et on connaît bien ici avec l'ami Christian Riquet, c'est important. Mais voir ce que ça fait sur son propre corps, ça change tout. Et donc vraiment, je dis à nos auditeurs, si vous voulez vous faire plaisir et vous remettre au sport,
Une montre connectée. Avec l'Apple Watch qui est toujours en haut du podium.
Oui, alors si on a un iPhone, si on n'a pas d'iPhone, c'est même pas la peine. Si on a un iPhone, c'est très bien. Sinon, moi, j'aime beaucoup Fitbit. Ouais. Je trouve que c'est l'un des leaders du marché. Ils ont une super interface, très simple. Ils ont des très bons produits, Fitbit et Garmin. Garmin qui sont les produits les plus pointus. Pas forcément les plus jolis, avec l'interface la plus simple, mais franchement, c'est les produits les plus précis. Mais vraiment pour la course, c'est-à-dire que c'est pas forcément des bracelets ou des montres qu'on va garder toute la journée. On va la mettre plutôt pour le sport, mais c'est aussi assez remarquable.
Allez, on revient dans un instant. Raphaël, merci pour tous ces conseils. Et on espère que quelques-uns d'entre vous vont jeter un œil sur mon copain bracelet connecté, une montre connectée. On revient. Comme c'est la dernière, on va jeter un œil sur ces innovations qui ont marqué ces 5 dernières années. Et puis, on va aussi se projeter sur 2021. Qu'est-ce qui va arriver en matière de tech ?
RMC, le week-end des experts.
Il est temps maintenant de faire connaissance de façon plus précise avec un ordinateur.
9h-10h, votre vie numérique.
Certaines inventions ont bouleversé nos vies à jamais.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Encore une fois, une très très belle année 2021. Sincèrement, on vous souhaite plein de réussite, plein de bonheur, la santé aussi. Espérons que cette année 2021 soit un petit peu plus clémente que l'année que l'on vient de vivre. Même si tout n'a pas été à jeter en 2020. Mais c'est vrai qu'on a eu des moments quand même un peu compliqués.
C'est-à-dire que cette pandémie a aussi propulsé la tech. Alors on aurait aimé que ça se fasse dans un autre contexte.
Mais est-ce qu'un autre contexte aurait permis de faire propulser la tech aussi rapidement ?
C'est toujours ça. Voilà, il y a des conséquences plus ou moins positives toujours à des catastrophes. Et c'est vrai que je pense que ça a permis de familiariser beaucoup de gens avec la tech, notamment les systèmes de visioconférence. Et ça a montré à beaucoup de monde que la visioconférence, quand ça marchait, c'était quand même pas mal du tout.
Bien sûr.
Et l'importance, d'ailleurs, l'importance des infrastructures aussi, d'avoir la fibre, d'avoir une bonne connexion Internet. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, Internet, c'est vraiment l'électricité.
Tout à fait.
C'est pareil. Fait.
Et voilà, avec ce plan, on va dire, monstrueux de très très haut débit partout en France, avec, vous l'avez vu, l'installation de la fibre à pas de charge de la part du gouvernement, de la part de tous les opérateurs, avec des objectifs qui sont impressionnants. D'ici 2025, je crois, toute la France sera fibrée à 100%.
Mais d'ailleurs, on a souvent des réflexions d'auditeurs, et ils ont tout à fait raison en nous disant « Oui, enfin chez moi, c'est encore loin, je suis un peu exclu ». Alors, c'est facile de notre part de dire ça de Paris, où évidemment on est fibré de partout. Mais par exemple, le téléphone, certains réseaux cuivrés, ça a pris un demi-siècle.
Bien sûr.
Donc là, on fait ça en
pas de charge.
15 ans, 20 ans.
Voilà, c'est ça, c'est
donc,
bien.
Donc, c'est déjà pas mal et j'espère que les objectifs seront tenus.
Alors, on va jeter un œil dans le rétroviseur, comme on dit, Raphaël. Et puis, comme ça fait... 3 ans et demi que tu m'accompagnes le samedi matin sur RMC. Regardons un petit peu ce qui s'est passé durant toutes ces années en matière de tech. Quelles sont les innovations qui ont marqué ces dernières années ?
Moi, je voudrais revenir sur une innovation ou un ensemble d'innovations moi qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est la démocratisation du smartphone parce que finalement, il y a l'iPhone, c'est 2007, donc ça a maintenant 13 ans. Mais je trouve qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu une évolution absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a encore, mais même 3-4 ans, entre le smartphone, justement, on en parlait en début d'émission avec Jérôme, les smartphones à 300 euros étaient franchement très limités.
C'est vrai.
Il fallait mettre beaucoup d'argent, il fallait mettre au moins 700-800 euros pour avoir un smartphone acceptable. Et je trouve qu'aujourd'hui, le smartphone s'est considérablement démocratisé. Je rappelle quand même qu'il y a 25% des Français qui n'ont pas de smartphone.
Encore aujourd'hui.
25 ou 20%, enfin, en gros, quasiment un Français sur cinq. C'est beaucoup. D'ailleurs, ça, quand on pense souvent.
Oui. Et puis, ça nous calme à nous.
Ça nous calme un peu. Ça voilà. Calme aussi les gens qui veulent dire il faut rendre l'application tous anti-Covid obligatoire. Ben non, parce que.
Mais il y a plein de gens qui ont des petits téléphones.
Exactement.
Qui font que téléphoner.
Et d'ailleurs, ils ont tout à fait le droit. Mais c'est vrai que le côté positif, c'est que j'ai l'impression, enfin, je trouve, que. Avoir un bon smartphone. Paradoxal, ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que les modèles haut de gamme ont coûtent de plus en plus cher. Mais paradoxalement, avoir un très bon smartphone n'a jamais coûté aussi peu cher.
Parce que oui, on se retrouve avec des téléphones très très chers, mais la démocratisation des smartphones est en route.
Ah oui.
Et finalement, on peut se retrouver pour 200 euros. Alors évidemment, attention, on n'est pas en train de dire que 200 euros, c'est pas une somme. Mais finalement, pour avoir un petit ordinateur portable,
oui, et puis
avec toute cette puissance, toute cette technologie qui fait appareil photo, qui va prendre vos mails, qui va vous permettre de vous connecter aux réseaux sociaux, de regarder des vidéos, c'est révolutionnaire.
C'est incroyable. En plus, parce qu'avant quand même, on va pas se mentir, les smartphones à 200-300 euros, ils étaient quand même très moches. Aujourd'hui, on a un design qui, alors évidemment, les finitions sont pas les mêmes, les matériaux sont pas les mêmes. Enfin, on a un design global qui font que quand on prend un café, j'espère qu'un jour on pourra prendre un café ou un verre quelque part, on cache pas.
Tu veux dire dans un restaurant,
dans un vrai café restaurant avec des vrais gens autour. J'espère que ça arrivera de nouveau. Avant on cachait un peu son téléphone très moche sous la table. Hein, on n'osait même pas trop le montrer. Aujourd'hui, franchement, les smartphones des marques chinoises, notamment d'entrée de gamme, ils sont franchement très très jolis. Accessoirement, le développement aussi des fonctions photo, c'est incroyable ce qu'ont fait les fabricants de smartphones sur la photo. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 15 ans, à Noël, on achetait un compact. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Un appareil photo compact, c'est un marché qui n'existe plus. Pourquoi ? Parce que le meilleur appareil photo, et là je vais citer notre ami Adrien Branco de 01net.com, mais à mon avis qui n'est pas le seul à dire ça, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi.
Et oui,
c'est ça le meilleur appareil photo. Bien c'est sûr. Pas le
celui qu'on va pouvoir dégainer à tout
c'est
moment.
C'est celui qu'on peut dégainer, c'est celui qui fait que la photo peut exister. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu de meilleur appareil photo que le smartphone, qui est un appareil photo qu'on a sur soi et qui en plus, alors fait des prouesses, mais phénoménales. Quand on voit la qualité d'image que peuvent proposer des smartphones, et alors OK, en basse lumière, les smartphones à 200-300 euros, c'est pas idéal. Mais franchement, vous faites une photo de famille sur la plage, en vacances, avec un smartphone à 200 euros, je vous assure que votre photo, vous allez en profiter. Vous pouvez l'imprimer, il n'y a aucun problème. Et ça, je voudrais voilà, c'est ce qu'on a vu, je trouve, ce que j'ai vu presque de meilleur dans la tech autour des 3-4 dernières années.
Alors ça, c'était la première vraie révolution de ces dernières années. Hein, vous vous en doutiez, et c'est pas terminé. Hein. Autre point que tu voulais aborder avec nous, c'est l'explosion des fintechs.
Eh oui. Alors c'est un sujet qu'on a abordé de temps en temps, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la ringardisation des banques.
Oui.
Et
des banques historiques.
Des banques historiques, et oui, de nos vieilles banques, entre guillemets, de nos vieilles institutions.
Parce que fintech, c'est l'abréviation
finance
et technologie.
Exactement. Et là, c'est vraiment sur les 2-3 dernières années, avec des fintech, des banques en ligne. Alors, les banques en ligne, ça fait un moment que ça existe. Mais on a eu une nouvelle génération de banques en ligne. Je pense à deux acteurs qui sont Revolut et N26, que j'utilise d'ailleurs, j'utilise les deux. Pour un peu comparer les interfaces, ça c'est mon côté geek. Mais là aussi, aujourd'hui, ils ont complètement bouleversé le marché. Alors une partie du marché de la banque, parce que il y a un marché très important qui est celui du crédit.
Oui. Là, le crédit immobilier, par exemple.
Le crédit immobilier, là, vous le faites chez votre banque.
Même s'ils nous promettent d'un jour pouvoir le faire,
ça va sûrement arriver.
Ça va arriver.
Ça va sûrement arriver. Mais là, je vais vraiment parler de la banque du quotidien, des opérations du quotidien, mais celles qui vous coûtent aussi beaucoup d'argent, celles qui vont vous coûter. Moi, je me souviens. Je ne vais pas donner le nom de ma banque, mais il n'y a pas si longtemps, je suis parti aux États-Unis pendant quelques jours. J'ai demandé à ma banque comment je pouvais faire pour payer en dollars sans frais. Ils m'ont dit, vous prenez une option à 20 euros. Aujourd'hui, n'importe quelle banque gratuite, c'est-à-dire vous prenez Revolut, vous prenez N26, la carte est gratuite et vous partez partout dans le monde, vous payez sans aucun frais. Et je peux vous dire, il se trouve que j'ai un passé où j'ai travaillé en tant que trader. Et je peux vous dire que les commissions et par exemple les taux que vous appliquent ces banques.
Oui, c'est scandaleux.
Oui, mais du coup, les banques, les Revolut, les N26, je peux vous dire qu'ils sont plutôt honnêtes. Parce que franchement, les taux de change que j'ai vus sur Revolut, franchement, c'était les mêmes que ceux des professionnels. Enfin, c'est, voilà. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est comme sur les smartphones, je parle de démocratisation, mais d'ailleurs, pendant l'émission, je pense qu'en fait, on va parler quasiment que de démocratisation. démocratisation, parce que c'est ce qui s'est passé au cours des 100 dernières années, c'est la démocratisation de la tech. Et voilà, ces fintech, je trouve, ont radicalement changé la donne pour les opérations bancaires du quotidien. Aujourd'hui, je me souviens, quand je me suis abonné, quand j'ai commandé ma carte Revolut, je suis rentré dans un taxi, je me suis dit, tiens, je vais tester Revolut. En sortant du taxi, ma carte était prête à être envoyée.
Voilà. C'est ça qui est incroyable. Alors que pour créer un compte sur une banque traditionnelle,
je vais pas donner de nom, mais pour créer un compte sur une banque en ligne d'un concurrent français, ça a mis 3 mois.
Oui.
Là, ça a mis 13 minutes, je pense. Voilà.
C'est la révolution. En fait, c'est l'accélération de toutes ces démarches lourdes qui sont faites grâce aux smartphones et grâce à la tech.
Et j'ai envie de dire, même si on n'a pas totalement confiance, d'ailleurs, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance, parce que c'est un marché qui est extrêmement réglementé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est-à-dire que même si la banque N26 ou Revolut ferme demain, on ne perd pas l'argent qu'on a sur les comptes, bien évidemment.
Mais il y a une utilisation que beaucoup de gens font, et je trouve que c'est une très bonne utilisation, c'est avoir une petite somme comme ça, toujours sur ce compte.
Bien sûr.
Et puis comme ça, quand on part en vacances, on met une somme, et puis c'est réglé, et puis on s'en sert pour les vacances.
Mais tu sais que moi, ça, tu me donnes envie de tester, j'ai pas encore testé, ces néobanques. Non.
Ah, faut que tu testes. Franchement, ça, s'il y a une recommandation que je fais, en plus, c'est gratuit. Testez, vous allez voir. Alors, évidemment, si vous en avez au moins un certain usage, mais vous partez à l'étranger, hors zone euro, vous allez avoir des frais. Testez, vous allez voir, vous recevrez une carte. Je cite ces deux acteurs parce que c'est les deux leaders et que franchement, je trouve que c'est les deux meilleurs, c'est les deux plus pertinents. Puis, sincèrement, c'est absolument incroyable. Et puis, vous allez surtout économiser de l'argent.
Voilà pour les fintech. Autre révolution de ces dernières années, vous l'avez sans doute assisté, justement peut-être pendant le confinement, où là, tout s'est accéléré, c'est la transformation de la télé, tout simplement, Raphaël.
Alors, à deux niveaux d'ailleurs, sur la partie matérielle et sur la partie logicielle. La partie matérielle, parce que, comme les smartphones d'ailleurs, alors là, c'est encore plus incroyable, je trouve, acheter une bonne... Déjà, j'ai l'impression qu'on ne peut plus trouver de mauvaise télé.
C'est vrai, tu as tout à fait raison.
Voilà, il n'y a plus de mauvaise télé.
Même si on trouve des télés à des prix incroyables, et Dieu sait si on a pu voir, et vous allez voir des promos incroyables sur des télés de 55 pouces à 300-400 euros, on n'a plus de mauvaise télé.
On n'a plus de télé avec un rendu moche, des couleurs catastrophiques, ça arrive mais à la marge. Mais si on reste sur les grandes marques...
On a
des super trucs avec des nouveaux acteurs comme Hisense, comme TCL. On a des super télés. Aujourd'hui, avoir une bonne télé, comme tu disais, 55 pouces. Alors la diagonale des télés a augmenté avec les années parce que ça coûte aussi moins cher. 55 pouces, c'est vraiment la taille de référence pour un salon moyen, j'ai envie de dire, classique. Ça coûte pas grand chose. Ça va coûter 600-700 euros pour des très bons modèles. Ça peut descendre bien en dessous pour des modèles qu'on va garder quand même assez longtemps. Donc, je voudrais vraiment souligner le fait qu'aujourd'hui, avoir une télé, c'est pas cher. C'est pas cher, on s'entend, évidemment, comme tu le dis, c'est toujours des sommes. Mais le rapport qualité-prix de la télé a complètement changé au cours des, je trouve, 4 dernières années. Et autre amélioration considérable, et là, c'est la partie logicielle, c'est évidemment la télé connectée. Donc, la télé connectée en soi, c'est-à-dire que vous avez des fabricants, quasiment maintenant tous les fabricants, Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Philips, qui font que de la télé connectée, ou presque maintenant, c'est-à-dire une télé qui est une sorte d'immense tablette avec des applications, avec des interfaces qui sont d'ailleurs toutes à peu près bien faites, et où on a maintenant des interfaces qui sont quand même, je trouve, plus pertinentes que ceux de pas mal de box qui ont une inertie un peu plus importante. Et puis surtout, on a aussi les petits boîtiers, les petites clés, notamment Chromecast, par exemple. On a le Chromecast de Google avec Google TV qui vient de sortir, qui coûte quelques dizaines d'euros, qui permet d'avoir une interface de téléconnecté en quelques minutes. Et ça veut dire que d'un coup, on se retrouve avec toutes les applications pour téléconnecter qui existent. Et ça, c'est assez incroyable.
Et ça permet d'avoir des designs épurés. On n'est plus obligé d'avoir des boîtes collées à la télé. Aujourd'hui, on peut avoir une télé accrochée au mur, connectée en Wi-Fi et branchée sur le courant, et on a tout ce qu'il faut. On n'a plus besoin d'avoir des appareils en dessous. Et ça aussi, c'est une petite révolution.
C'est une révolution.
Ça consomme moins d'électricité. C'est écologiquement hyper intéressant parce que à terme, ça veut dire qu'on aura moins de plastique, moins de composants électroniques puisque tout est dans la télé. C'est top.
Et oui, le Chromecast, par exemple, moi, le produit que j'ai adoré. Alors, il y a l'Apple TV qu'on connaît maintenant depuis quelques années, mais qui coûte à partir de 200 euros, donc c'est pas donné. Mais sinon, vous avez le Chromecast de Google avec l'interface Android TV, enfin Google TV, ils appellent ça maintenant, qui coûte 70 euros à ce prix-là. Mais c'est
et vous connectez n'importe quelle télé.
On connecte n'importe quelle télé. On a toutes les applis
parce qu'évidemment.
En 4K, évidemment, parce que c'est Google, on a toutes les applis. Voilà, je trouve ça absolument génial. Et à titre personnel, moi, j'ai débranché mes box depuis depuis peut-être 2 ans. Je me sers même plus de ma box et elles sont rangées.
Enfin, la box, box télé, on va dire.
Le player TV. Enfin, voilà. La box, sinon, on n'a plus Internet.
Voilà, exactement. Tiens, en revanche, si vous voulez regarder 01 TV, c'est plus pratique avec la box, hein, encore. Hein.
C'est ça, ah oui, c'est alors ça, voilà, il y a encore quelques chaînes.
Box SFR, enfin, box Orange, Freebox aussi.
Il y a l'appli BFM TV hein, sur les télés connectés où on a 01 TV.
Exactement. Hein. On revient dans un instant, Raphaël, pour notre dernière partie de ce week-end des experts vie numérique. On jettera encore un œil du côté du passé et puis après on s'intéressera aux innovations de 2021. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabu.
Raphaël, pour terminer donc ce week-end des experts vie numérique, je te propose de continuer notre petit coup d'œil dans le rétroviseur. Avec ce qui a marqué un peu la tech ces dernières années, depuis que tu fais cette émission, depuis 3 ans et demi. Alors on a parlé de la démocratisation du smartphone, l'explosion des fintech, de la transformation de la télé. Je pense qu'il faut aussi quand même évoquer quelque chose peut-être de moins positif, mais finalement on se rend compte que les réseaux sociaux apportent des aspects positifs, mais aussi beaucoup de points négatifs. C'est par exemple la décrépitude de Facebook.
Oui, moi Facebook c'est vraiment une entreprise qui a eu un bouleversement en termes d'image assez incroyable quand même, qui était l'entreprise qui allait relier le monde. Je veux dire, il y a 10 ans d'ailleurs, c'était pile il y a 10 ans, les fameux printemps arabes. C'est Facebook aussi qui a permis ça. C'est-à-dire la circulation, j'ai envie de dire, alternative de l'information dans ces régimes où l'information ne pouvait pas circuler.
Exactement, l'information libre en quelque sorte.
Exactement, c'était il y a 10 ans. Et le problème, c'est que cette information libre, qui est évidemment quelque chose d'absolument positif, et de génial, ça a des effets secondaires et cette information parfois elle est manipulée et c'est là où on est entré dans la deuxième phase d'ailleurs des années 2010 avec les élections aux États-Unis en 2016 où des forces extérieures aux États-Unis ont par exemple un peu essayé d'influencer le résultat de l'élection présidentielle avec l'affaire Cambridge Analytica où on a vu des cabinets chargés d'influencer, de publier des fausses informations sur les visant les électeurs. Alors ceux qui hésitaient à l'époque entre Trump et Clinton, ils étaient voilà, il fallait absolument les faire basculer de son côté. Bien et sûr. Pour ça, Facebook. Alors c'est évidemment pas son but initial, mais Facebook a été le théâtre d'une manipulation absolument historique. Et depuis cette affaire, malheureusement, Facebook a du mal. Alors, sans pour autant, d'ailleurs, que ça nuise à son modèle économique, puisque Facebook se porte bien.
Et puis, non seulement Facebook se porte bien, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs. Enfin, c'est monstrueux.
Et puis, l'écosystème Facebook se porte très bien.
Voilà. Et puis, il n'y a pas que des aspects négatifs aussi à Facebook.
Non, mais Facebook a...
J'imagine que tout comme moi, tu as retrouvé des vieux potes dont tu avais perdu.
Bien sûr.
Complètement la trace. Grâce à Facebook.
Oui, et puis il y a des fonctions qui...
C'est un annuaire mondial génial, Facebook.
C'est un annuaire mondial, d'où le problème des données, évidemment. Mais il y a aussi des choses formidables, notamment, je pense au groupe. Pour organiser des événements.
Bien entendu.
Aujourd'hui, qui organise un anniversaire sans Facebook, même un mariage sans Facebook. Voilà, c'est essentiel. Mais Facebook a aussi de grandes responsabilités et je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur sur tout.
Après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Ils ont créé un nouveau média ingérable, en fait. Ils ont enfanté d'un monstre. Est-ce que je pense qu'il leur faut du temps pour comprendre comment réagir et comment réguler ce média.
Ce que je pense qu'on peut reprocher à Facebook, c'est de ne pas dire ça, de ne pas dire, écoutez,
on ne sait pas trop où on va,
on n'y arrive pas, parce que la vérité c'est qu'ils n'y arrivent pas.
Bien sûr,
ils peuvent pas le faire.
Là, tu as raison. Voilà, il y a un manque total de transparence.
Mais parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'à partir du moment où Facebook dit je n'y arrive pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les démanteler.
Mais oui.
Qu'il faut dire, eh bien d'accord, eh bien
vous y arrivez pas, bah, écoutez, arrivez on va pas. Vous y aider.
On va vous y aider. On va vous y aider. On va dire Facebook d'un côté, Instagram de l'autre, WhatsApp de l'autre, parce que tout ça, ça appartient à Facebook. Et en fait, c'est le succès de Facebook qui fait qu'ils sont dans ces difficultés. C'est parce qu'ils ont des milliards d'utilisateurs si on cumule les différentes applications. Et d'ailleurs, ils ne perdent pas tellement d'utilisateurs Facebook. Alors les gens passent sûrement moins de temps. D'ailleurs, ils vont avoir un problème, notamment au niveau de l'âge, c'est-à-dire que les jeunes ne vont plus sur Facebook. Alors, il se trouve qu'ils ont Instagram derrière, la nouvelle vache à lait pour les jeunes. Mais derrière, il y a aussi, alors il y a Snapchat, mais il y a surtout TikTok aussi. Donc, ils ont des concurrents. Mais vraiment, ces dernières années, je trouve que Facebook a été au cœur de beaucoup de scandales. Et je pense qu'il gagnerait à être en tout cas beaucoup, beaucoup plus transparent.
Ouais. Alors voilà pour Facebook. Juste un mot quand même aussi peut-être sur la haine en ligne, parce que c'est quelque chose qui est intimement lié. Alors là, ça déborde Facebook, hein, ça va sur Twitter, sur Snapchat, etc., même sur TikTok.
Oui, mais hein. D'ailleurs, c'est la transition parfaite, parce que la haine en ligne, oui, c'est ce qui va faire, à mon avis, les deux prochaines années en tech.
Tout à fait.
C'est le combat contre la haine en ligne. Et quand je disais, il faut
essayer de légiférer ça.
Alors légiférer, oui. D'ailleurs, je précise quand même,
de réguler.
La loi déjà interdit, hein, la haine en soi. En fait, on n'a pas le droit d'appeler à tuer des gens, hein, on peut le rappeler quand même. Donc, il se trouve que dans la rue, la police, la justice, c'est géré, entre guillemets. En ligne, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va changer des lois. Il va y avoir des lois au niveau européen. Facebook, par exemple, enfin, les réseaux sociaux devront, par exemple, supprimer des contenus en moins de 24 heures. Il y aura beaucoup de nouveautés. On ne sait pas s'ils y arriveront. On ne sait pas s'ils y arriveront en ne supprimant que les contenus visés, est-ce qu'ils vont pas trop supprimer, ils vont pas au contraire porter atteinte à la liberté d'expression. Ça va être le grand débat, je trouve, des prochaines années.
Voilà, qu'on suivra de près, bien sûr, sur BFM Business ensemble et sur Zéro Net.
Exactement. Comment adapter la justice, la police aux réseaux sociaux, c'est extrêmement compliqué et il va falloir mettre la pression sur les réseaux sociaux. À mon avis, ça va être extrêmement extrêmement important.
Alors voilà, ça c'est quelque chose qui est en train de se profiler, même si ça a commencé, hein, bien sûr. Autre chantier, cette fois-ci, qui a débuté fin 2020, mais qui va se développer en 2021 et puis dans les années qui viennent, parce que c'est un chantier vraiment de longue haleine, c'est la 5G.
Et oui.
Et alors, quand on parle de 5G, il y a évidemment toute une galaxie d'autres sujets, hein, liés à ça, parce que la 5G, bah, c'est le futur réseau des télécoms, comme on a eu la 3G, comme on a eu la 4G. Aujourd'hui, on est obligé de passer à la vitesse supérieure.
Et parallèlement à la fibre.
Avec ce nouveau réseau. Et la fibre aussi, bien sûr.
En fait, j'explique simplement, les antennes relais en 5G, pour fonctionner, elles sont reliées à la fibre. Donc en fait, le déploiement de la 5G dépend évidemment du déploiement de la fibre. Et la 5G, oui, c'est beaucoup plus le futur que le passé, même si on a eu déjà, au cours de l'année 2020, beaucoup de débats. Et j'ai l'impression que la 5G a vraiment cristallisé toute cette nouvelle défiance. D'ailleurs, finalement, c'est aussi une défiance vis-à-vis des nouvelles technologies. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais forcément, avec de grands succès viennent de grandes responsabilités, de grandes remises en cause. Et comme la tech change les vies, eh bien forcément, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Et d'ailleurs, ils ont bien raison. Il faut se poser ces questions. Alors, il y a les effets sanitaires, il y a les effets sur notre vie quotidienne, il y a les effets sur nos données personnelles, sur l'espionnage, sur voilà, il y a beaucoup de sujets. Et je pense que la 5G a d'ailleurs un peu injustement entre nous, parce que c'est l'outil, après ça dépend de ce qu'on en fait, a cristallisé tout ça.
Elle a cristallisé tout ça parce que d'un coup il y a eu une prise de conscience qu'on n'avait pas eue à l'époque de la 4G.
Exactement, et je pense que la 5G a cristallisé ça, indépendamment de ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen de communication comme un autre. Après, il faudra faire attention à ce qu'on en fait, ça c'est important. Et effectivement, c'est le début, en fait, cette année 2021, c'est le vrai début de la 5G.
C'est ça.
Parce qu'on a maintenant quelques villes, quelques grandes villes notamment, qui commencent à avoir des antennes 5G. On a maintenant des offres de tous les opérateurs, d'ailleurs avec des prix. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Quand la 4G est arrivée, ça coûtait beaucoup plus cher. Après, il y a Free qui a cassé les prix. La Free, il casse les prix entre guillemets dès le début. Alors, c'est une 5G un peu différente, c'est-à-dire que c'est des débits peut-être moins importants. Je vais pas aller dans le détail technique, mais c'est des antennes, on va dire, qui s'appuient sur des fréquences proches de celles de la 4G. Donc c'est un peu différent.
Alors ils ont aussi des antennes en 3,5 GHz, hein. On va pas rentrer dans le détail,
voilà, mais ils ont aussi des antennes en 3,5 GHz.
Ils en ont peut-être plus que d'autres opérateurs.
Ils en ont plus à ma connaissance que Bouygues et SFR.
Ouais, c'est
pour le moment. ça va changer, ça va changer, évoluer, bien sûr. Mais effectivement, donc, mais on va dire qu'il donne un effet un peu waouh, qui est basé aussi sur ce type d'antenne, mais n'empêche que Free, ils sont à leur rôle. On se demandait si Free allait casser les prix, bah oui, ils cassent les prix, et donc ça c'est très différent. Et ça marche aussi pour les smartphones, on parlait des smartphones en début d'émission, mais il y a quelques années, les smartphones pas chers, ils étaient en 3G, ils n'étaient pas en 4G, et là, dès le lancement de la 5G.
On a des smartphones 5G.
On a des smartphones 5G pas chers, à 300€. Mmh. Et c'est là où ça va être beaucoup plus accessible, je pense, pour les gens. Mais après, on va aussi calmer toutes les ardeurs. La 5G, c'est une affaire de 10 ans. Hein. Donc, il n'y a aucune urgence à acheter un smartphone 5G, à passer à une offre 5G. Mais dans les 2-3 années, je pense qu'au niveau des débits, ce sera pas mal et ça va être aussi utile pour désengorger la 4G, parce qu'il y a beaucoup d'antennes, notamment dans les villes, et ça nous arrive à tous, on se connecte à la 4G, on a 4 barres 4G, et pourtant, ouais, c'est
très long. Et voilà, ça rame quand on va sur Internet.
Et parce qu'on se connecte à l'antenne, mais l'antenne elle-même, elle est
perdue, saturée,
elle sait plus où elle habite. Et donc la 5G va aider pour ça. Donc pour moi, le premier bilan de la 5G, ce que j'en attends, c'est pas de révolution, pas du tout, mais une transition utile et un appui solide à ce qu'on a déjà.
Voilà, tout ça est passionnant, bien sûr. On a été très heureux pendant toutes ces années avec Raphaël à vous aider à décrypter toutes ces technologies. Raphaël, alors comme on disait, ce n'est qu'un au revoir parce que évidemment notre carrière et notre job se poursuit. Alors même s'il s'arrête sur RMC, il va se poursuivre sur d'autres médias.
Hein, rappelons-le.
La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même antenne et à cette même heure la matinale du week-end de BFM TV.
Et je voudrais quand même vraiment encore une fois te remercier, François, parce que tu m'as mis le pied à l'étrier. D'abord sur 01net, ensuite, bon, on se dit pas adieu, mais quand même, je voulais te remercier.
Oui, bah oui. Un rapport d'étape, on va dire. C'est un voilà. Checkpoint, tu sais, comme dans les jeux.
Non, mais franchement, faire ses premiers pas en radio sur RMC. Sur une grande radio nationale.
Ouais, c'était cool.
En pouvant parler pendant une heure de tech.
Ouais,
c'est
ouais,
quand
ouais.
même incroyable. Donc, je voulais encore une fois te remercier.
Et puis, merci aussi à la direction parce que c'est grâce à eux. Raphaël, donc, rendez-vous sur BFM Business et dans De quoi je me mêle sur BFM Business aussi très, très vite. Merci à toi.
Merci beaucoup, François. Et merci à tous nos auditeurs.
Voilà. Et demain, on va terminer ce week-end des experts avec Jean-Luc Moreau qui sera là entre 7h et 10h. 3 heures d'auto, bien sûr. Ce sera la dernière aussi. Portez-vous bien dans un instant. Les paris RMC, à demain.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.